Chapitre 3. Les vampires de l'Ancien Régime, dont la vie avait fait tant de mal à la France, en firent encore plus par leur mort. Ces gens, que Mirabeau nommait si bien le rebut du mépris public, sont comme réhabilités par le supplice. La potence est pour eux l'apothéose. Les voilà devenus d'intéressantes victimes, les martyrs de la monarchie. Leur légende ira s'augmentant de fictions pathétiques. Monsieur Burke va tout à l'heure les canoniser et prier sur leur tombeau. Les violences de Paris, celles dont les provinces furent en même temps le théâtre, placèrent l'Assemblée nationale dans une situation difficile dont elle ne pouvait bien sortir. Si elle ne faisait rien, elle semblait encourager le désordre, autoriser l'assassinat. Elle fournissait un texte aux calomnies éternelles. Si elle essayait de remédier au désordre, de relever l'autorité, elle rendait au roi, non, mais à la reine, à la cour, l'épée que le peuple avait brisée dans leurs mains. Dans l'une ou l'autre hypothèse, l'arbitraire et le bon plaisir allaient être rétablis pour la vieille royauté ou la royauté de la rue. On démolit en ce moment l'odieux symbole de l'arbitraire, la Bastille. Et voilà qu'un autre arbitraire, une Bastille, se relève. L'Anglais se frotte ici les mains, il remercie la lanterne. Grâce à Dieu, dit-il, la Bastille ne disparaîtra jamais. Qu'auriez-vous fait? Dites-le, officieux conseiller, nos amis, les ennemis sages de l'aristocratie européenne, qui s'est soigneusement arrosé de calomnie la haine que vous avez plantée. Assis à votre aise sur le cadavre de l'Irlande, de l'Italie, de la Pologne, veuillez nous répondre. Vos révolutions d'intérêt n'ont-elles pas coûté plus de sang que nos révolutions d'idées? Qu'auriez-vous fait? Sans nul doute ce que la veille, le lendemain du 22 juillet, conseillait Lalit Hollandal, Mounier, Malouet. Ils voulaient, pour rétablir l'ordre, qu'on rendît le pouvoir au roi. Lali se confiait tout à fait aux vertus du roi. Malouet voulait qu'on priât le roi d'user de sa puissance, de prêter main forte au pouvoir municipal. Le roi aurait armé et le peuple non, point de garde nationale. Le peuple se plaint, eh bien, qu'il s'adresse au Parlement, au procureur général. N'avons-nous pas des magistrats? Foulon était magistrat. Malouet a renvoyé Foulon au tribunal de Foulon. On doit, disait-on très bien, réprimer les troubles. Seulement, il fallait s'entendre. Ce mot comprenait bien des choses. Des vols, d'autres crimes ordinaires, des pillages de gens affamés, des meurtres d'accapareurs, des justices irrégulières sur les ennemis du peuple, la résistance à leurs complots, la résistance légale, la résistance à ma armée. Tout cela sous le mot « trouble ». Voulait-on y appliquer une répression égale? Si l'on chargeait l'autorité royale de réprimer les troubles, le plus grand pour elle, à coup sûr, c'était d'avoir pris la Bastille, elle aurait puni celui-là d'abord. C'est ce que répondirent Buzot et Robespierre, le 20 juillet, 2 jours avant la mort de Foulon. C'est ce que Mirabeau, même après l'événement, dit dans son journal. Il expliqua ce malheur à l'Assemblée par sa véritable cause, l'absence de toute autorité à Paris, l'impuissance des électeurs qui, sans délégation légitime, continuaient d'exercer les fonctions municipales. Il voulait que les municipalités s'organisassent, prissent la force, se chargeassent du maintien de l'ordre. Quel autre moyen, en effet, que de fortifier le pouvoir local quand le pouvoir central était si justement suspect? Barnave dit qu'il fallait 3 choses. Des municipalités bien organisées, des gardes bourgeoises et une justice légale qui pût rassurer le peuple. Quelle serait cette justice? Un député suppléant, Dufresnois, envoyé par un district de Paris, demandait 60 jurés pris dans les 60 districts. Cette proposition, appuyée par Pétion, était modifié par un autre député qui voulait, aux jurés, associer des magistrats. L'Assemblée ne décida rien. À 1 heure après minuit, de Garlas, elle adopta une proclamation dans laquelle elle réclamait la poursuite des crimes de lèse-nation, se réservant d'indiquer dans la Constitution les tribunaux qui jugeraient. C'était remettre à longtemps. Elle invitait à la paix sur le motif que le roi avait acquis plus de droits que jamais à la confiance du peuple, qu'il existait un concert parfait, etc. Confiance, et jamais plus il n'y eut de confiance. Au moment même où l'Assemblée parlait de confiance, une triste lumière avait lui. On voyait de nouveaux périls. L'Assemblée avait eu tort, le peuple avait eu raison. Quelque envie qu'on eût de se tromper, de croire tout fini, le bon sens disait que l'Ancien Régime vaincu voudrait prendre sa revanche. Un pouvoir qui avait depuis des siècles toutes les forces du pays dans ses mains, administration, finances, armées, tribunaux, qui avait encore partout ses agents, ses officiers, ses juges, sans aucun jugement, et pour partisans forcés, 200 000 ou 300 000 nobles ou prêtres, propriétaires d'une moitié ou des 2/3 du royaume, Ce pouvoir immense, multiple, qui couvrait la France, pouvait-il mourir comme un homme d'un seul coup en une fois? Était-il tombé roi de mort sous une balle de juillet? C'est ce qu'on n'aurait pas pu faire croire au plus simple des enfants. Il n'était pas mort. Il avait été frappé, blessé. Moralement, il était mort. Physiquement, il ne l'était pas. Il pouvait ressusciter. Comment le revenant apparaîtrait-il? C'était toute la question que le peuple s'adressait. C'était celle qui eût troublé l'imagination. Le bon sens prit ici mille formes de superstition populaire. Tout le monde allait voir la Bastille. Tous regardaient avec terreur la prodigieuse échelle de corde par laquelle la tute descendit des tours. On visitait ces tours sinistres, ces cachots noirs, profonds, fétides, où le prisonnier, au niveau des égouts, vivait assiégé, menacé des crapauds, des rats, de toutes les bêtes immondes. On trouva sous un escalier deux squelettes, avec une chaîne, un boulet, que sans doute traînait un des deux infortunés. Ces morts indiquaient un crime, car jamais les prisonniers n'étaient enterrés dans la forteresse. On les portait la nuit au cimetière de Saint-Paul, l'église des Jésuites, confesseurs de la Bastille. Ils y étaient enterrés sous des noms de domestiques, de sorte qu'on ne sut jamais s'ils étaient morts ou vivants. Pour ces deux, les ouvriers qui les trouvèrent leur donnèrent la seule réparation que ces morts pouvaient recevoir. 12 d'entre eux, armés de leurs outils, portant le poil avec respect, les menèrent et les inhumèrent à la paroisse honorablement. On espérait faire d'autres découvertes dans cette vieille caverne des rois. L'humanité outragée se vengeait. On jouissait d'un sentiment mêlé de haine et de peur, de curiosité. Curiosité insatiable qui, lorsqu'on avait tout vu, cherchait et fouillait encore, voulait pénétrer plus loin, soupçonner quelque autre chose sous les prisons révélées prisons, des cachots sous les cachots, au plus profond de la terre. Les imaginations étaient vraiment malades de cette Bastille. Tant de siècles de générations de prisonniers qui s'étaient succédé là, ces cœurs brisés de désespoir, ces larmes de rage, ces fronts heurtés contre la pierre. Quoi? Rien n'avait laissé trace? À peine quelques pauvres inscriptions, gravées d'un clou, illisibles? Cruelle envie du temps, complice de la tyrannie, qui s'est accordée avec elle pour effacer les victimes. On ne pouvait rien voir, mais on écoutait. Il y avait certainement des bruits, des gémissements, d'étranges soupirs. Était-ce imagination? Mais tout le monde entendait. Fallait y croire que les malheureux fussent encore ensevelis au fond de quelque oubliette, connue du gouverneur seul qui avait péri? Le district de l'île Saint-Louis, d'autres encore, demandaient qu'on recherchât la cause de ces voix lamentables. Une fois, et deux, et plusieurs, le peuple revenait à la charge. Quelque enquête que l'on fit, il ne prenait pas son parti. Il était plein de troubles, d'inquiétudes pour ces infortunés, peut-être enterrés vivants. Et si ce n'étaient pas des prisonniers, n'étaient-ce pas des ennemis? N'y avait-il pas sous le faubourg quelque communication des souterrains de la Bastille aux souterrains de Vincennes? Du donjon à l'autre donjon, ne pouvait-on faire pousser des poudres, exécuter ce que Delaunay avait eu l'idée de faire, lancer la Bastille dans les airs, renverser, écraser le faubourg de la Liberté? On fit des recherches publiques, une enquête solennelle et authentique pour rassurer les esprits. L'imagination alors transporta son rêve ailleurs. Elle plaça sa mine et sa peur de l'autre côté de Paris, dans ces cavités immenses d'où nos monuments sont sortis, aux abîmes dont l'on a tiré le Louvre, Notre-Dame et autres églises. En 1786, on y avait versé, sans qu'il y parût, tant ces souterrains sont vastes, tout Paris mort depuis 1000 ans. Une terrible masse de morts qui, pendant cette année, allait la nuit dans des chars de deuil, le clergé en tête, chercher les innocents à la tombe histoire, le repos définitif et l'oubli complet. Ces morts appelaient les autres. Et c'est sans doute là qu'un volcan se préparait. La mine du Panthéon au ciel allait soulever Paris, et le laissant retomber, confondré, brisé, sans forme, les vivants avec les morts, le pêle-mêle des chairs palpitantes, des cadavres et des ossements. Ces moyens d'extermination ne semblaient pas nécessaires. La famine suffisait. Après une mauvaise année, venait une année mauvaise. Le peu de blé qui avait levé autour de Paris fut foulé, gâté, mangé par la cavalerie nombreuse que l'on avait rassemblée. Et même sans cavalier, le blé s'en allait. On voyait ou l'on croyait voir des bandes armées qui venaient la nuit couper le blé vert. Foulon, tout mort qu'il était, semblait revenir exprès pour faire à la lettre ce qu'il avait dit. Faucher la France. Faucher le blé vert, le détruire, la seconde année de famine, c'était aussi faucher les hommes. La terreur allait s'étendant. Les courriers répétant ces bruits la portaient chaque jour d'un bout du royaume à l'autre. Ils n'avaient pas vu les brigands, mais d'autres les avaient vus. Ils étaient ici et là. Ils étaient en route, nombreux, armés jusqu'aux dents. Ils arrivaient la nuit probablement, ou demain sans faute. En plein jour, à tel endroit, ils avaient coupé les blés. C'est ce que la municipalité de Soissons écrivait éperdue à l'Assemblée nationale en demandant du secours. Toute une armée de brigands marchait sur cette ville. On chercha. Ils avaient disparu dans les fumées du soir ou les brouillards du matin. Ce qui était plus réel, c'est qu'à cet affreux fléau de la faim, quelques-uns avaient eu l'idée d'en joindre un autre qui fait frissonner quand on songe aux 100 années de guerre qui, dans le 14e, le 15e siècle, firent un cimetière de notre malheureux pays. Ils voulaient amener les Anglais en France. La chose a été contestée, pourquoi ? Elle est infiniment vraisemblable, puisqu'elle a été sollicitée, plus tard, tentée, manquée, à Quiberon. Mais cette fois, il s'agissait non pas d'amener leur flotte sur une plage difficile, sans défense et sans ressources, mais bien de les établir dans une bonne place défendable, de leur mettre en main l'arsenal naval où la France, un siècle durant, a entassé ses millions, ses travaux, tout son effort. La pointe, la proue du grand vaisseau national, l'écueil du vaisseau britannique, il s'agissait de livrer Brest. Depuis que la France avait aidé à la délivrance de l'Amérique, divisé l'Empire anglais, l'Angleterre souhaitait, non sans malheur, mais sa ruine et destruction complète, qu'une forte marée d'automne souleva l'océan de son lit et couvrait d'une belle nappe tout ce qu'il y a de terre de Calais aux Vosges, aux Pyrénées et aux Alpes. Cependant, il y avait une chose plus belle à voir, c'était que cette mer nouvelle fut de sang, du sang de la France tiré par elle de ses veines, qu'elle s'égorgea elle-même et s'arracha les entrailles. À cela, le complot de Brest était un bon commencement. Seulement, il était à craindre que l'Angleterre, donnant la main aux scélérats qui lui vendaient leur pays, n'unit toute la France contre elle, qu'elle ne nous réconcilia dans une indignation commune, qu'il n'y eut plus de parti. Une autre cause eût suffi pour retenir le gouvernement anglais, c'est que, dans le premier moment, l'Angleterre, malgré sa haine, souriait à notre révolution. Elle n'en soupçonnait aucunement la portée. Dans ce grand mouvement français et européen qui n'est pas moins que l'avènement du droit éternel, elle croyait voir une imitation de sa petite révolution insulaire et égoïste du XVIIe siècle. Elle applaudissait la France comme une mère encourage l'enfant qui tâche de marcher derrière elle. Étrange mère, qui ne savait pas bien au fond si elle désirait que l'enfant marchât ou se rompît le col. Donc l'Angleterre résista à la tentation de Brest. Elle fut vertueuse et révéla la chose au ministre de Louis XVI, sans dire le nom des personnes. Dans cette demi-révélation, elle trouvait un avantage immense, celui de brouiller la France, de porter au comble la défiance et les soupçons, d'avoir une prise terrible sur ce faible gouvernement, de prendre hypothèque sur lui. Il y avait à parier qu'il ne rechercherait pas sérieusement le complot, craignant de trop bien trouver, de frapper sur ses amis. Et s'il ne recherchait rien, s'il gardait ce secret pour lui, l'Anglais était toujours à même de le faire éclater, cet affreux secret. Il tenait cette épée suspendue sur la tête de Louis XVI. D'Orsay, l'ambassadeur anglais, était un homme agréable. Il ne bougeait de Versailles. Plusieurs croyaient qu'il avait plu à la reine et qu'il avait eu son tour. Cela n'empêcha pas qu'après la prise de la Bastille, sondant la profondeur du coup que le roi avait reçu, il ne saisit l'occasion de le perdre autant qu'il était en lui. Une lettre assez équivoque de D'Orsay au comte d'Artois ayant été saisie par hasard, il écrivait au ministre que l'on soupçonnait à tort d'avoir influé en rien sur les troubles de Paris. « Loin de là, ajoutait-il doucement, votre Excellence sait bien l'empressement que j'ai mis à lui faire connaître l'affreux complot de Brest au commencement de juin, l'horreur qu'il inspirait à ma cour, et l'assurance nouvelle de son attachement sincère pour le roi et la nation. » Et il priait le ministre de communiquer sa lettre à l'Assemblée nationale. Autrement dit, il le priait de se mettre la corde au col. Sa lettre, du 26 juillet, constatait, mettait en lumière que la cour, deux mois entiers, avait gardé le secret, sans agir et sans poursuivre. Réservant apparemment ce complot comme un encas de guerre civile, une arme dernière, le poignard de miséricorde, comme disait le Moyen-Âge, que l'homme gardait toujours afin que, l'épée brisée, vaincue, terrassée, il pût, en demandant grâce, assassiner son vainqueur. Le ministre Montmorin, traîné par l'Anglais au grand jour, à l'Assemblée nationale, ne lui a donné qu'une assez pauvre explication. À savoir que, n'ayant pas le nom des coupables, on n'avait pas pu poursuivre. L'Assemblée n'assista pas. Mais le coup était porté, et n'en fut que plus profond. La France entière le sentit. L'affirmation de D'Orsay qu'on eût pu croire mensongère, une fiction, un brandon que nos ennemis jetaient au hasard, parut confirmée par l'imprudence des officiers de la garnison de Brest, qui, sur la nouvelle de la prise de la Bastille, firent la démonstration de se retrancher au château, la menace de traiter militairement la ville si elle bougeait. C'est ce qu'elle fit à l'instant. Elle prit des armes, s'empara de la garde du port. Les soldats, les marins, travaillant en vain par leurs officiers qui leur donnaient de l'argent, se rangèrent du côté du peuple. Le noble corps de la marine était fort aristocrate, mais nullement anglais, à coup sûr. Les soupçons ne s'étendirent pas moins sur eux, et d'autre part sur la noblesse de Bretagne. Celle-ci s'indigna en vain protesta de sa loyauté. L'irritation portée au comble faisait croire au plus noir complot. La longue obstination de la noblesse à rester séparée du tiers dans les états généraux, l'amère, l'âcre polémique qui s'était élevée à cette occasion dans les villes, grandes et petites, dans les villages et hameaux, souvent dans la même maison, avait inculqué au peuple une idée ineffaçable que le noble, c'était l'ennemi. Une partie considérable de la haute noblesse, illustre, historique, fit ce qu'il fallait pour prouver que cette idée était fausse, craignant peu la révolution, et croyant que, quoi qu'elle fît, elle ne tuerait pas l'histoire. Mais les autres et les plus petits, moins rassurés sur leur rang, plus vaniteux ou plus francs, blessés aussi chaque jour par l'élan nouveau du peuple qu'ils voyaient de bien plus près, qui les serrait davantage, se déclaraient hardiment ennemis de la révolution. Les ennoblis et les parlementaires étaient les plus furieux. Les magistrats étaient devenus plus guerriers que les militaires. Ils ne parlaient que de combat, juraient mort, sang et ruine. Ceux d'entre eux qui jusque-là avaient été l'avant-garde de la résistance aux volontés de la cour, qui avaient savouré le plus la popularité, l'amour, l'enthousiasme public, étaient étonnés, indignés de se voir tout d'un coup indifférents ou haïs. Ils haïssaient sans borne. Ils cherchaient souvent la cause de ce changement si prompt dans l'artificieuse machination de leurs ennemis personnels, et les haines politiques s'envenimaient encore de vieilles haines de famille. À Quimper, un Carsalone, membre du Parlement de Bretagne, ami de la chaloté, naguère ardent champion de l'opposition parlementaire, puis tout d'un coup royaliste, aristocrate, encore plus ardent, se promenait gravement au milieu des huées du peuple qui pourtant n'osait le toucher, et nommant ses ennemis tout haut, disait avec gravité « Je les jugerai sous peu et laverai mes mains dans leur sang. » Un de ces parlementaires, seigneur en Franche-Comté, M. Mémé de Quincé, ne sentait pas à la menace. Ulcéré probablement par des haines de voisinage, l'esprit troublé de fureur, entraîné peut-être aussi par cette pente à l'imitation qui fait qu'un crime célèbre engendre bien souvent des crimes, il réalisa précisément ce que Delaunay avait voulu faire, ce que le peuple de Paris croyait encore avoir à craindre. Il fit savoir à Vesoul, et dans les alentours, qu'en réjouissance de la bonne nouvelle, il donnerait une fête et traiterait à table ouverte. Paysans, bourgeois, soldats, tous arrivent, boivent, dansent. La terre s'ouvre, une mine éclate, lance, brise, tue hasard. Le sol est jonché de membres sanglants. Le tout, attesté par le curé qui confessa quelques blessés qui survivaient, attesté par la gendarmerie, apporté le 25 juillet à l'Assemblée nationale. L'Assemblée indignée obtint du roi qu'on écrirait à toutes les puissances pour demander l'extradition des coupables. L'opinion s'étendait, s'affermissait, que les brigands qui coupaient les blés pour faire mourir de faim le peuple n'étaient point les étrangers, comme on l'avait pensé d'abord, point italien, point espagnol, comme Marseille le croyait en mai, mais des Français ennemis de la France, de furieux ennemis de la Révolution, leurs agents, leurs domestiques, des bandes soldées par eux. La terreur en augmenta, chacun croyant avoir près de soi les démons exterminateurs. Le matin, on courait aux champs voir s'ils n'étaient pas dévastés. Le soir, on s'inquiétait, craignant de brûler dans la nuit. Au nom des brigands, les mères serrées cachaient leurs enfants. Où donc était cette protection royale sur la foi de laquelle le peuple avait si longtemps dormi? Cette vieille tutelle qui le rassurait si bien qu'il en était resté mineur, qu'il avait en quelque sorte grandi sans cesser d'être enfant. On commençait à sentir que quelque homme que fut Louis XVI, la royauté était l'intime ami de l'ennemi. Les troupes du roi, qui, en d'autres temps, eussent paru une protection, étaient justement ce qui faisait peur. Qui voyait-on à leur tête? Les plus insolents des nobles, ceux qui cachaient le moins leur haine. Ils animaient, payaient au besoin le soldat contre le peuple, enivraient leurs Allemands. Ils semblaient préparer un coup. L'homme devait compter sur soi, sur nul autre. Dans cette absence complète d'autorité et de protection publique, son devoir de père de famille le constituait défenseur des siens. Il devenait dans sa maison le magistrat, le roi, la loi et l'épée pour exécuter la loi, conformément au vieux proverbe. Pauvre homme en sa maison, roi est. La main de justice, l'épée de justice pour ce roi, c'est ce qu'il a. Sa faux, au défaut de fusil, son hoyot, sa fourche de fer. Viennent maintenant les brigands, mais il ne les attend pas. Voisins et voisins, village et village armé, ils vont voir dans la campagne si ces scélérats oseront venir. On avance, on voit une troupe. Ne tirez pas cependant. Ce sont les gens d'un autre village, amis et parents, qui cherchent aussi. La France fut armée en 8 jours. L'Assemblée nationale apprit coup sur coup les progrès miraculeux de cette révolution. Elle se vit en un moment à la tête de l'armée la plus nombreuse qui fut depuis les croisades. Chaque courrier qui arrivait l'étonnait, l'effrayait presque. Un jour, on venait lui dire « Vous avez 200 000 hommes ». Le lendemain, on lui disait « Vous avez 500 000 hommes ». D'autres arrivaient. 1 million d'hommes sont armés cette semaine. 2 millions et 3 millions. Et tout ce grand peuple armé, dressé tout d'un coup du sillon, demandait à l'assemblée ce qu'il fallait faire. Où donc est l'ancienne armée? Elle a comme disparu. La nouvelle, si nombreuse, lui étouffait sans combattre, seulement en se serrant. La France est un soldat, on l'a dit, elle l'est depuis ce jour. Ce jour, une race nouvelle sort de terre, chez laquelle les enfants naissent avec des dents pour déchirer la cartouche, avec de grandes jambes infatigables pour aller du Caire au Kremlin, avec le don magnifique de pouvoir marcher, combattre sans manger, de vivre l'esprit. D'esprit, de gaieté, d'espérance, qui donc a droit d'espérer si ce n'est celui qui porte en lui l'affranchissement du monde? La France était-elle avant ce jour? On pourrait le contester. Elle devint tout à la fois une épée et un principe. Être ainsi armé, c'est être, qui n'a ni l'idée ni la force, n'existe que par pitié. Ils étaient en fait, et ils voulurent être en droit. Le barbare Moyen-Âge n'admettait pas leur existence. Il les niait comme hommes et n'y voyait que des choses. Dans sa misère scolastique, il enseignait que les âmes rachetées du même prix valent tout le sang d'un dieu, et ces âmes à s'y relever, il les rabaissait à la bête, les fixait sur leur sillon, les adjugeait au servage éternel et damnait la liberté. Ce droit sans droit a légué la conquête, c'est-à-dire l'ancienne injustice. La conquête, disait-il, a fait les nobles, les seigneurs. N'est-ce que cela, disait-il, nous serons conquérants à notre tour. Le droit féodal a légué encore ces actes hypocrites où l'on suppose que l'homme stipula contre lui-même. Où le faible, par peur ou par force, se donnait sans réserver rien, donnait l'avenir, le possible, ses enfants à naître, les générations futures. Ces coupables parchemins, la honte de la nature, dormaient impunis depuis des siècles au fond des châteaux. On parlait fort du grand exemple de Louis XVI, qui avait affranchi les derniers serfs de ses domaines, imperceptible sacrifice qui coûta peu au trésor et qui n'eut en France presque aucun imitateur. Quoi dira-t-on? Les seigneurs étaient-ils en 89 les hommes durs, impitoyables? Nullement. C'était une classe d'hommes très mêlée, mais généralement faible et physiquement déchue, légère, sensuelle et sensible. Si sensible qu'ils ne pouvaient voir de près les malheureux. Ils les voyaient dans les idylles, les opéras, les contes, les romans qui font verser de douces larmes. Ils pleuraient avec Bernardin de Saint-Pierre, avec Grétry et Sedaine, avec Berquin, Florian. Il se savait gré de pleurer et se disait « Je suis bon ». Avec cette faiblesse de cœur, cette facilité de caractère, la main ouverte, incapable de résister aux occasions de dépenses, il leur fallait de l'argent, beaucoup d'argent, plus qu'à leur père. De là, la nécessité de tirer beaucoup des terres, de livrer le paysan aux hommes d'argent, intendants et gens d'affaires. Plus les maîtres avaient bon cœur, plus ils étaient généreux et philanthropes à Paris, plus leurs vassaux mouraient de faim. Ils vivaient moins dans leur château pour ne pas voir cette misère, dont leur sensibilité aurait eu trop à souffrir. Telle était en général cette société faible, vieille et molle. Elle s'épargnait volontiers la vue de l'oppression, n'opprimée que par procureur. Il ne manquait pas cependant de nobles provinciaux qui se piquaient de maintenir dans leur castel les rudes traditions féodales, qui gouvernaient durement leurs familles et leurs vassaux. Rappelons seulement ici le célèbre ami des hommes, le père de Mirabeau, l'ennemi de sa famille qui tenait enfermé tous les siens, femmes, fils et filles, peuplait les prisons d'État, plaidait contre ses voisins, désolait ses gens. Il compte que, donnant une fête, il fut étonné lui-même de l'aspect sombre, sauvage de ses paysans. Je le crois sans peine. Ces pauvres gens craignaient vraisemblablement que l'ami des hommes ne les prît pour ses enfants. Il ne faut pas s'étonner si le paysan, ayant une fois saisi les armes, s'en servit et prit sa revanche. Plusieurs seigneurs avaient cruellement vexé leurs communes, qui ce jour-là s'en souvinrent. L'un avait entouré de murs la fontaine du village, l'avait confisquée pour lui. Un autre s'était emparé des communaux, ils périrent. On cite encore plusieurs autres meurtres qui, sans doute, furent des vengeances. L'armement général des villes fut imité par les campagnes. La prise de la Bastille les encouragea à attaquer leur Bastille. Tout ce dont il faut s'étonner, quand on sait ce qu'ils souffraient, c'est qu'ils aient commencé si tard. Les souffrances, les vengeances étaient accumulées par le retard, entassées à une hauteur effrayante. Quand cette monstrueuse avalanche, retenue longtemps à l'état de glace et de neige, fondit tout à coup, Une telle masse déborda que son seul déplacement pouvait tout anéantir. Il faudrait pouvoir démêler dans cette scène immense et confuse ce qui appartient aux bandes errantes de pillards, de gens chassés par la famine, et ce que fit le paysan domicilié, la commune, contre le seigneur. On a recueilli le mal soigneusement, le bien pas assez. Plusieurs seigneurs trouvèrent des défenseurs dans leurs vassaux. Par exemple, le marquis de Montfermeil qui, l'année précédente, avait emprunté 100 000 francs pour les secourir. Les plus furieux eux-mêmes s'arrêtèrent quelquefois devant la faiblesse. En Dauphiné, par exemple, un château fut respecté parce qu'on n'y trouva qu'une dame malade, au lit, avec ses enfants. On se borna à détruire les archives féodales. Généralement, le paysan montait d'abord au château pour se faire donner des armes, puis il osait davantage. Il brûlait les actes et les titres. La plupart de ces instruments de servitude, les plus actuels, les plus oppresseurs, étaient bien plutôt dans les greffes chez les procureurs et notaires. Le paysan y alla peu. Il s'attaqua de préférence aux antiquités, aux chartes originales. Ces titres primitifs, sur beau parchemin orné de sceaux triomphants, restaient au trésor du château pour être montrés au bon jour. Ils habitaient les somptueux casiers, les portefeuilles de velours au fond d'une arche de chêne qui faisait l'honneur de la tourelle. Point de manoir important qui, près du colombier féodal, nous montra sa tour des archives. Nos gens allaient droit à la tour. Là, pour eux, était la Bastille. La tyrannie, l'orgueil, l'insolence, le mépris des hommes. La tour, depuis bien des siècles, se moquait de la vallée. Elle la stérilisait, l'attristait, l'écrasait de son ombre pesante. Gardien du pays dans les temps barbares, sentinelle de la contrée, elle en fut l'effroi plus tard. En 89, qu'est-elle sinon l'odieux témoin du servage, un outrage perpétuel, pour redire tous les matins à l'homme qui va labourer l'antique humiliation de sa race. Travaille, travaille, fils de serre. Gagne, un autre profitera. Travaille, et n'espère jamais. Chaque matin et chaque soir, 1000 ans, davantage peut-être, la tour fut maudite. Un jour vint qu'elle tomba. Que vous avez tardé, grand jour. Combien de temps nos pères vous ont attendu et rêvé. L'espoir que leur fils vous verrait enfin a pu seul les soutenir. Autrement, ils n'auraient plus voulu vivre, ils seraient morts à la peine. Moi-même, leurs compagnons, labourant à côté d'eux dans le sillon de l'histoire, buvant à leur coupe amère qui m'a permis de revivre le douloureux Moyen-Âge, et pourtant de n'en pas mourir, n'est-ce pas vous? Ô beau jour, premier jour de la délivrance, j'ai vécu pour vous raconter. »